L'émission jazz d'Allegre FM.
Tous les samedis à 17h.
Sur Allegre FM avec Lionel Eskenazi.
Bonjour, bienvenue dans Jazzland sur Allegre FM. On est très heureux de retrouver cette petite fenêtre jazz sur la grille d'Allegre FM. Voilà, les vacances ont été longues, mais maintenant c'est la reprise tous les samedis à 17h sur l'antenne d'Allegre FM. Alors, écoutez, je vais vous présenter mes invités. Alors, Jazzland, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une émission d'actualité discographique sur le jazz, bien sûr. Et alors, j'ai invité deux musiciens, musiciennes aussi, qui font l'actualité. Alors tout d'abord, Leïla Olivesi. Bonjour Leïla.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, je vous invite pour cette émission, pour ce disque, pardon, qui s'appelle African Rhapsody. Alors, c'est une exclue d'Allegre FM, puisque le disque ne sort que la semaine prochaine, c'est bien ça?
Vous avez tout à fait raison.
Le 17 octobre.
Le 17 octobre.
Voilà, alors on est... Là, c'est rare qu'on parle des disques juste avant qu'ils sortent. Bon, voilà, à quelques jours près, on est dans l'actu. Surtout que dans le Jazz Magazine du mois d'octobre, on parle de vous. L'album est choc et je vous en félicite. Et voilà, et puis ça fait le buzz. Et puis il y a un concert au Bal Blomet dans ce mois d'octobre, c'est le 23.
Oui, le 23 octobre, voilà, j'espère
très bientôt,
que,
voilà, au Bal
Blomet. J'espère que tous les auditeurs auront envie d'aller voir.
Mais oui, parce qu'il faut voir le jazz en live, c'est beaucoup
Exactement.
Mieux.
Moi j'y serai, hein, ça c'est sûr.
Alors voilà, c'est notre deuxième invité, Quentin Gomari. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Alors pourquoi il dit qu'il y sera? Parce qu'il fait partie de l'orchestre de Leïla Olivesi, de ce fameux octet dont on va parler bien sûr. Mais Quentin, il a aussi une carrière personnelle et il vient de sortir un très bel album en trio. Le nom du trio, c'est Otrium, et donc l'album s'appelle Deuxième Mouvement, qui est un titre très original.
C'est donc qu'il y avait un premier mouvement.
Mais oui, parce que c'est le deuxième opus. Non, je plaisante. Hein. Mais c'est pas facile de trouver des titres en même temps. Puis il y a un côté, du coup, musique classique, deuxième mouvement.
Oui, j'aimais bien. C'est un titre en français,
oui,
j'aimais
mais
bien.
Mais comme déjà. C'est un, ce qu'on appelle aujourd'hui un jazz de chambre, c'est-à-dire une petite formation, un trio. Donc en fait, ça colle. Non, ça colle. Je me moque, mais vraiment. Non, c'est de bon cœur. Alors, donc, du coup, vous faites partie des deux disques dont on parle aujourd'hui, Quentin, et c'est super.
Oui.
Mais il faut, parce que les musiciens, ils sont à la fois sideman et ils sont leaders, et on fait les deux, et c'est bien. Et c'est ça la vie des musiciens aussi.
Évidemment,
ouais. Enfin, tout le monde n'est pas leader, hein, il y en a qui... Notamment le contrebassiste de Leïla Olivesi, que j'adore, qui est aussi le vôtre d'ailleurs, Yoni Zelnik. Et alors lui, il n'a pas envie du tout d'être leader. Hein, mais en même temps, il travaille 365 jours par an. Donc ça va pour lui, non, n'est-ce pas, Leïla?
Oui, et puis en plus, c'est un excellent sideman.
C'est
il
vrai.
Il fait ça à merveille.
Il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Et on aura l'occasion d'en reparler aussi. Alors, Leïla, on va commencer par vous. C'est fulgurant votre carrière parce que ça progresse, on se dit mais on l'est encore toute jeune, elle va encore progresser, mais jusqu'où on ne sait pas, mais on l'espère en tous les cas, parce que mine de rien, 20 ans de carrière, on peut dire ça, mais ouais. Vous avez démarré enfant, on est d'accord. Hein.
Exact.
C'est vrai en plus, parce que les petits loups du jazz, vous chantiez à l'époque.
Oui, hein. J'avais 13 ans.
Bah voilà, alors 20 ans de carrière, 7e album, hein, c'est quand même superbe. Magnifique, et vous êtes compositrice, chef d'orchestre, pianiste, arrangeuse,
mm-hmm.
Ça vous va? Chanteuse
mal,
de temps en
mal.
Temps.
Directrice artistique
ouais,
aussi.
Oui, on peut dire ça, ouais, et chanteuse ouais. De temps en temps. Mais...
Ah oui, c'est vrai, j'ai chanté dans un de mes disques,
ouais,
qui après... s'appelle Utopia. Oui,
absolument, mm-hmm. Mais ça marchait très bien, vous faisiez très bien le job, mais vous aimez bien aussi prendre des vraies chanteuses confirmées, parce que vous aimez le texte et la poésie.
Tout à fait.
Et là, c'est aussi au centre de ce disque, bien qu'il y a beaucoup. Il y a un octet. Alors, parlons de cet octet. C'est votre groupe. C'est le troisième album avec ce groupe, c'est ça?
Ouais,
on
c'est
va
ça.
On citer peut-être les 8 musiciens, dont Quentin Gomari, ici présent, à la trompette et au bugle.
Tout à fait.
Ouais.
Alors, citez-les-moi les
Alors,
autres.
Alors, j'ai là, 3 saxophonistes. Il y a Baptiste Herbin au saxophone alto, Adrien Sanchez au saxophone ténor et Jean-Charles Richard au saxophone soprano et au saxophone baryton. Et puis parfois, Adrien ou Baptiste jouent aussi de la flûte. ça dépend des moments.
Il ouais.
Y a Manu Koja à la guitare. Donc le fameux Yoni Zelnik, contrebassiste excellent, sideman à la contrebasse. Et Donald Contomanu à la batterie.
Voilà, cet octet magique. Vous avez envie de continuer ce groupe, j'imagine. C'est votre bébé quelque part. Hein, c'est, votre...
Là, c'est vrai que c'est une de mes palettes d'expressions ouais. préférées. Parce que c'est un plaisir d'écrire voilà, pour des solistes magnifiques, mais qui sont aussi au service de la musique. Et il y a une complicité qui s'est installée ces dernières années, qui est hyper agréable dans le groupe. Je sens qu'il y a une estime mutuelle aussi entre eux. Ils sont très différents, ils ont des personnalités très différentes, mais donc ça enrichit, on va dire, le son du groupe. Et en fait, c'est encore mieux quand on connaît bien les gens pour qui on écrit. Un petit peu à la façon de Duke Ellington, en fait.
Alors, on va parler de Duke Ellington, parce que vous êtes une grande spécialiste de Duke Ellington. Vous faites des conférences. Vous en avez fait beaucoup avec le regretté Claude Carrière, avec qui vous étiez très proche. Mais Claude n'est plus là, mais vous continuez à raviver cette flamme ellingtonienne. Et c'est très important aussi dans votre écriture. Et le point commun qu'on pourrait trouver entre Ellington et vous, c'est que c'est justement ce dont vous venez de parler, c'est que vous écrivez spécialement pour les solistes que vous connaissez par cœur maintenant, puisque ça fait combien d'années, 10 ans à peu près.
Oui, bientôt 10 ans, et ça. Puis pour certains, ça fait même 20 ans.
Ouais.
Donald Contomanu, ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble, Manu Koja, bientôt 20.
Et alors aussi. Quentin qui est présent ici même, ça fait combien de temps?
Alors là, ça va être le troisième CD qu'on fait ensemble, et je pense que ça fait 8 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, 8 ans peut-être.
J'imagine.
Ouais.
Et puis je sais que Quentin, il vient aussi avec vous quand vous faites des jazz égouttés au Sunside,
parfois,
des choses comme ça.
Et puis on a joué aussi en quintette à Marciac cet été.
Ah oui, en quintette, d'accord.
Ouais, c'était super.
Mais oui, mais il faut dire que c'est un trompettiste exceptionnel, Quentin. Mais oui, enfin, moi je le pense en tous les cas. Et on va démarrer tout de suite en musique, on aura l'occasion de discuter. Mais là, il faut quand même passer un peu de musique dans cette émission.
Mm-hmm.
Alors, c'est compliqué de choisir des morceaux de votre disque, ils sont tous formidables. Alors après, il ne faut pas mettre des morceaux trop longs, c'est tout ça. Bref, j'ai choisi quand même un morceau qui me paraît très emblématique. Et parce qu'en plus, il y a un peu tous les solistes qui s'expriment, à part Manu Koja, mais... Mm-hmm. Tous les soufflants, tous les cas s'expriment. Il s'agit de Wayne Left Town, qui est un hommage à Wayne Shorter. C'est parti. Thank you. Wayne Left Town de tirer d'African Rhapsody de Leila Olivier. C'est Baptiste Herbin qui avait le dernier mot là.
Oui, oui, c'est lui.
Ah oui, parce que là ils soufflaient tous comme des dingues, donc on a pu entendre tous les souffleurs faire un chorus, dont Quentin Gomary à la trompette et puis les trois saxophonistes. Donc Baptiste Herbin au sax alto, Adrien Sanchez au sax ténor et Jean-Charles Richard ici au baryton. Et du coup là, il y a un son d'orchestre incroyable parce que ils se répondent, il y a des questions-réponses. Et puis il y a toujours cette rythmique très élégante et ce beat, si je puis dire, ouais. Hein, ce battement qui est un peu ellingtonien quand même, faut bien le dire, mais il est élégant et clair.
Merci. Oui, en fait, ce morceau, en fait, je l'ai écrit donc en hommage à Wayne Shorter, mais c'était aussi une façon de répondre à la demande de Jean-Charles Richard, qui dans le groupe m'avait dit un jour, Leïla, ça serait chouette que tu écrives un morceau spécial pour les sax. Parce qu'il y avait quand même trois saxes. Et donc là, il y a tout un spécial avec des questions-réponses entre eux.
Ah oui, non, mais ça marche très bien. Puis c'est un truc que vous n'aviez pas trop expérimenté avant, j'imagine. Ou...
Oui, mais il y a toujours plein de formes de musique. En fait, moi, je n'ai pas de recette, je n'ai pas de système d'écriture. En fait, à chaque fois, je suis inspirée par différentes choses et j'essaye de créer des univers différents. Et là, c'est vrai que c'est très jazz, en fait.
Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il faut préciser... Le titre Wayne Left Town, Wayne vient de nous quitter, il a quitté la ville, mais en fait Wayne Shorter, qui était un grand fan de Lester Young, il l'avait même rencontré à la fin des années 50, il avait eu l'occasion d'aller le voir au Canada, à Toronto, et de discuter avec lui, et il en parlait souvent comme ça, comme un truc, un événement hyper important dans sa vie. Et quand Lester Young est mort en 59, Wayne Shorter lui a rendu un hommage avec un morceau qu'il a composé qui s'appelle Lester Left Town. Voilà. Et donc, dans votre Wayne Left Town, on entend des petites réminiscence du thème de Lester Lefton, mais d'une manière très subtile comme ça. Donc je vous félicite parce que c'est un petit clin d'œil, on va dire.
Oui, c'est ça, c'est exactement
dans votre
ça.
Composition. Alors Quentin, vous qui faites partie de cet orchestre, et là vous avez fait un très beau chorus parmi tous ces soufflants, là. Qu'est-ce que ça fait de jouer d'abord dans cet orchestre et puis de jouer la musique de Leïla ?
Eh ben, c'est beaucoup de plaisir, et puis je rejoins tout à fait ce que disait Leïla, il y a une ambiance super. Il y a beaucoup de respect les uns envers les autres, et j'ai l'impression que tout le monde va dans la même direction d'essayer de servir la musique. Et puis la musique de Leïla, elle est très évidente, très claire, et en même temps elle laisse la liberté aussi à chacun d'aller dans son sens, mais sans perdre une trame, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça élégamment comme ça. Voilà.
C'est
ce qui nous réunit.
Eh ben super. Alors moi, je vous connais bien tous, les huit musiciens, là. Et j'avoue que c'est très important aussi dans un orchestre. Il n'y a pas de problème d'égo. Hein. Vous êtes tous, j'allais dire, normal, entre guillemets. En fait, personne n'est normal, surtout quand on est musicien. Mais en tous les cas, personne n'a pris le melon, personne tire la couverture à lui. Tout le monde est au service de la musique. Et humainement, il se passe un truc, on le sent bien quand même.
Ouais, c'est vrai. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque album, on franchit un cap.
Oui. Absolument.
Et que à la fin des sessions de l'enregistrement de African Rhapsody, je me souviens de l'émotion de certains des membres du groupe qui disaient: ah ouais, mais dis donc Leïla, là c'est vraiment super, le groupe est hyper soudé, le son de groupe a encore gagné, en fait. Et ça, c'est aussi grâce à tous les concerts qu'on a donnés ces dernières années.
C'est-à-dire que c'est ça, c'est le grand luxe de pouvoir garder le même groupe, c'est qu'on progresse, vous progressez tous ensemble.
Ouais.
Et ça, c'est merveilleux. Duke, il y en a certains qui sont restés 40 ans dans l'orchestre.
Hein. Ouais,
et mine de rien, c'est précieux, ça.
Ouais, c'est chouette.
Surtout quand on écrit spécialement pour eux. Alors, puisqu'on parle de Duke, le deuxième morceau que j'ai choisi, justement, c'est un morceau de Duke Ellington, parce qu'il faut bien préciser que dans ce disque, vous avez tout composé, tout arrangé, sauf un petit hommage à Duke, parce que bon, votre album, il parle de l'Afrique, il parle des femmes, il parle de la poésie. hein, de la négritude, des poèmes liés à la négritude et aux femmes et à l'Afrique. Ça fait beaucoup déjà, hein, c'est super. Mmh. Et donc, et en même temps, bon, bah, Duke, c'est Dieu, hein, on est d'accord là-dessus. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute.
Ce que disait Miles Davis.
Et donc, bah, du coup, le morceau que vous avez choisi de Duke, qui réunit tout ça, vous pouvez peut-être nous en parler et le citer surtout.
Ouais, alors donc on a enregistré African Flower, qui s'appelle aussi Little African Flower dans certains enregistrements d'Ellington.
C'est le titre que vous avez choisi.
Voilà, c'est celui que j'ai choisi. Il s'appelle aussi Fleurette Africaine dans...
Moi, je l'aime bien en français dans le texte parce que c'est trop mignon quand même.
Ouais, c'est très joli. Et en fait, c'est un morceau qu'on a joué en trio parce que j'avais envie aussi d'une respiration, d'une espèce de rêverie poétique avec simplement l'évocation du piano, de la contrebasse et de la batterie. Et donc d'un moment un petit peu planant qui permet de respirer au milieu du disque, parce que c'est vrai que le disque est quand même très intense.
Oui.
Et puis le piano s'efface parfois devant d'autres solistes. Enfin là, j'avais envie, voilà, qu'on entende un petit peu le trio.
Oui, ben j'ai bien compris ça, la respiration, puisqu'il se situe au milieu du disque, hein, c'est le cinquième morceau.
Ouais.
Et c'est vrai qu'un orchestre de 8 musiciens, tout le monde joue et tout, c'est intense. Hein, c'est
très intense.
Et là, d'un seul coup, ben, et puis le trio, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous avez commencé comme ça. Enfin, il y avait un quartet, hein, avec Manu Kodjia, mais c'est Les petites formations, ça vous tient à cœur aussi, bien sûr.
Ouais,
et puis du coup, on a eu l'occasion d'en parler déjà, Leïla, mais je sais que bah, c'est compliqué de faire tout ce que vous faites. Et du coup, votre jeu de pianiste, il est un petit peu mis de côté, même si là, on a entendu d'ailleurs un solo de piano.
Je suis là, je suis bien là.
mais justement, le fait de faire un morceau en trio, vous êtes plus au centre avec votre instrument.
C'est ça.
Mais après, votre instrument à vous, c'est l'orchestre aussi.
Voilà, mon cœur balance. Voilà, mais voilà, là, c'était aussi une façon de rendre hommage à Duke Ellington, auquel j'ai consacré beaucoup de temps ces dernières années, puisque j'ai écrit une thèse de doctorat carrément sur Ellington.
Oui, c'est très impressionnant. Quentin et moi, nous sommes très impressionnés, il faut bien le dire. Hein.
Et donc là, c'était une façon de lui rendre hommage en musique.
Eh bien, on va l'écouter tout de suite, « Little African Flower ». Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Alors on vient d'écouter Little African Flower tiré de, d'African Rhapsody de Leila Olivesi. Voilà un morceau en trio. Alors moi je trouve qu'il y avait déjà chez Duke Ellington des couleurs comme ça un peu impressionnistes. Vous avez renforcé cet aspect-là. On est vraiment dans la rêverie. On est, le swing il est un petit peu souterrain comme ça. C'est très mystérieux et c'est très beau.
Merci Lionel.
Non mais c'est une mélodie sublime, il faut bien le dire, hein, ces petites fleurettes africaines.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un balancement mélodique qu'on sent,
ouais.
Et qui se déplace.
Mais qui n'est pas marqué.
Qui n'est pas très marqué.
C'est ça qui est bien.
Avec de l'azur au loin, on imagine peut-être des montagnes, des dunes du Sahara, enfin voilà, des paysages. En fait, je trouve que ça fait beaucoup voyager.
Absolument. Et Quentin, vous n'auriez pas envie de le jouer à la trompette, ce thème?
C'est très beau au piano, mais oui, on a toujours envie de jouer les morceaux qu'on aime, et il y en a certains, c'est mieux de les laisser.
Non, mais les belles mélodies comme ça.
Ah non, mais moi j'adore. Et puis il y a un balancement, là il y a une sorte de danse, côté presque un peu lunaire, avec de la gravité comme ça.
Ça
rebondit, mais sans s'écraser à aucun moment.
Ça rebondit, mais ça pas trop haut, voilà. C'est souple en même temps, c'est très
Alors,
souple.
J'avais trouvé une façon de caractériser ce groove, en fait, typique d'Ellington pour ce morceau. C'était Dreamy Habanera.
Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, ok, très bien. Alors, on va maintenant parler d'un autre aspect qui est dans votre disque, puisque là, on a écouté deux morceaux instrumentaux, mais il y a beaucoup de voix aussi dans votre disque. Alors d'abord, on va parler de Camille Berthaud qui apparaît sur deux morceaux et qui donc chante des poèmes. Alors, c'est des poèmes qui sont liés à la négritude. Alors, dites-nous plus précisément de quoi il retourne.
Alors, j'ai invité Camille à chanter le morceau qui s'appelle Aurore,
oui.
Qui est un poème de ma mère, Jamila Olivesi, qui parle de la figure de Aïcha Kandisha, qui est une sorcière du Sahara, encore très très vivante dans la mythologie aujourd'hui au Maroc et en Algérie. Et en fait, dans les débuts des années 80, ma mère a publié un livre qui s'appelle donc Aïcha Kandisha, en collaboration avec une peintre algérienne, Fatiha Rahou, qui fait de la peinture sous verre. Donc c'est une technique très particulière où on peint directement sur le verre, mais à l'envers. Donc c'est un processus qui nécessite de savoir à l'avance exactement le résultat final, puisqu'on fait la dernière couche en premier.
Ah ok, ok.
Et en fait, elles ont fait ce livre donc à deux voix, poème et peinture, sur le thème d'une... Alors, c'est pas vraiment une sorcière, c'est devenu le symbole de la femme avec un grand F, de la sensualité, de la féminité. C'est une femme initiatrice qui s'adresse... à l'homme et qui lui apprend plein de choses. Et voilà, ce sont des poèmes qui m'ont beaucoup marqué. En fait, j'avais d'ailleurs dédié un album déjà à cette figure-là. Et c'était chanté par Elisabeth Contomanou à l'époque. Et en fait, il y a ce poème-là, Aurore, que j'avais envie de mettre en musique aussi et d'enregistrer comme ça. Et Camille m'a fait le grand plaisir et l'honneur de chanter sur ce morceau qui, pour moi, est très, très fort et qui correspond vraiment à la fois à l'intime et l'universel de la femme.
Alors, il y a aussi un groupe vocal, un ensemble vocal de 12 chanteurs et chanteuses qui s'appelle les Poetic Birds. Alors, comment vous les avez rencontrés, ce groupe vocal?
Alors, en fait, ce groupe vocal s'est formé autour de Yanis Ben Abdallah,
oui.
Qui est un excellent chanteur lyrique, ténor, et qui est aussi chef de chœur. Et en fait, c'est avec lui que j'ai créé Rhapsody in Black l'année dernière.
D'accord.
Avec le Chœur Philharmonique International. Et à la suite de cette création, on discutait et il m'a fait part de son envie éventuellement de monter un groupe vocal pro pour enregistrer cette musique. Et en fait, on a créé donc ce chœur autour de lui. Donc il y a aussi Yete Queiroz, qui est une fabuleuse chanteuse mezzo. Pareil, une chanteuse lyrique qui avait participé à Rhapsody in Black. Et puis ensuite, ils ont appelé dans leur réseau professionnel des amis et très très bons chanteurs. Donc ils étaient 12. Alors il y avait 4, quatre ténors, quatre barytons, quatre altos et quatre sopranos.
Bah oui, c'est formidable. Voilà. Après, c'est un luxe après de pouvoir les avoir sur scène, c'est compliqué.
Ah non, pardon, ils étaient trois. Parce que 4 x 4, 16, ils étaient 3 par 4, pupitre. 12.
3 x 4, 12.
3 x 4, 12.
Et alors, voilà, on va écouter, là, pour après, on passera à l'album de Quentin Gomaret. On va écouter un morceau qui s'appelle New York, un petit peu le répondant d'African Rhapsody, puisqu'il y en a un qui se situe au début du 10, l'autre à la fin. Mais là, avec un texte de Léopold Senghor, ce qui n'est pas rien. Hein. Mm. Deux mots sur ce texte et sur Senghor.
Oui, alors c'était pour moi un grand honneur d'avoir comme ça des espèces de duos de création, puisqu'en fait, généralement, je mets en musique des poèmes de personnes qui sont vivantes, enfin, à l'exception de ma mère, qui est disparue, malheureusement, il y a un petit moment déjà. Mais en fait, d'avoir ce tête-à-tête avec Léopold Sédar Senghor, avec Aimé Césaire, avec David Diop et tout ça, c'était vraiment un plaisir fabuleux. C'est-à-dire que le matin, je me levais et tout d'un coup, j'interrogeais finalement le poème. Et en fait, je partais vraiment de la forme du poème pour essayer de créer la musique. C'est pour ça qu'en fait, ce sont des suites musicales. C'est pas juste un thème ou un refrain avec un couplet comme certaines chansons.
Ouais, bien
Là,
sûr.
Je suis vraiment la forme du
ouais,
poème.
Bah c'est ça qui est intéressant musicalement. Et je vais faire une petite parenthèse politique. C'est quand même formidable d'avoir un président de la République qui est poète. Nous n'avons pas cette chance-là. New York.
Thank you.
c'était New York tiré d'African Rhapsody de Leila Olivesi, que je félicite, parce que là, vous êtes 20, 12 chanteurs plus 8 musiciens, et là, il y a un côté opératique. Hein. Mm. On se croirait à l'Opéra Bastille, c'est sublime, hein. Bravo.
Merci, merci.
Non, vraiment très beau. Et alors, à la trompette, on a pu entendre un certain Quentin Gomary, qui donc vient de... a sorti un album, alors oui, c'est sorti au mois de septembre, hein, c'est ça.
C'est sorti le 19 septembre.
Voilà,
exactement.
Le 19 septembre, alors sur le label Neuklang, label allemand.
Oui.
Que vous connaissez bien, parce que moi je vous ai connu, Quentin, quand vous jouiez dans l'orchestre de Fred Morin, Pink Machine.
Tout à fait.
Et que tous les albums de Pink Machine étaient sur ce label allemand, et qui est un super label et qui aime bien les musiciens français.
Oui, et puis il y a une relation de confiance avec Philippe Eck, qui est un ingénieur son de là-bas.
Qui est formidable.
Alors là, il a fait juste le mastering.
D'accord.
Et c'est Erwan Boulet qui a fait le mixage. Mais voilà, donc du coup, il y a une relation de confiance avec Neuklang, ouais.
Ben non, ben c'est bien. Et le premier album, il était chez Neuklang aussi.
Oui, également.
D'accord, ok. Parce qu'il y a combien de temps ce premier album de ce trio qui s'appelle donc Otrium?
Oui, alors le Otrium est né. Alors l'album, il date de 2022, le premier album. Le groupe date de 2020-2021, au moment des confinements, en fait.
Ah oui, ouais, d'accord.
Voilà.
Alors, Yoni Zelnik et Antoine Paganotti, alors là, c'est une section rythmique incroyable, quand même. Hein.
Ah bah, c'est deux grands coups de cœur,
ça roule tout seul. Mais et c'est important pour vous, en tant que trompettiste, de jouer comme ça, de mettre la trompette au centre, puisque là, il n'y a même pas d'instrument harmonique, du coup. Hein. Et oui, là, on peut jouer sans instrument harmonique aussi.
Non, j'aime
c'est
bien.
C'est possible.
C'est rafraîchissant.
Bah, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai beaucoup joué en sideman, je joue encore beaucoup en sideman, j'aime énormément ça. Et c'est vrai que pour cette formule en trio, j'avais envie d'avoir plus d'espace et qu'on entende le son de manière plus proche.
Là, c'est vrai qu'un code là, au niveau spatial, il se passe quelque chose quand même, c'est
voilà.
Sûr. Hein.
Et puis, il y a un grand écart aussi entre la contrebasse, la trompette. Donc, c'est assez rare comme son aussi. On entend assez peu des trios trompette, contrebasse,
mais
batterie.
Mais oui, parce que souvent, il y a un pianiste quoi, ou un guitariste. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Les saxos le font plus souvent que les trompettistes.
Ouais.
Eh bien, on va écouter tout de suite un extrait. Alors, j'ai choisi le premier morceau d'Idis, mais alors là, c'est pareil, parce que c'est une mélodie qui est un peu aussi belle que Fleurette africaine. C'est The Peacocks de Jimmy Rawls. Juste avant de l'écouter, juste pourquoi ce morceau qui est sublime, hein. C'est vrai qu'il y a tellement de versions incroyables.
Ben, moi, j'avais la version de Getz en référence.
De Stan Getz, d'accord.
Magnifique version.
Ouais. Avec Bill Evans au piano. Mmh.
Oui, c'est ça.
Hein.
Et en fait, l'histoire de ce deuxième disque, ça a été un disque qui a été enregistré de manière assez rapide. Et donc, il y a eu très peu de répètes avant. Et donc, j'ai proposé ce morceau-là à l'enregistrement. Et ça a
plutôt
bien fonctionné.
Vous ne l'aviez pas bossé en amont du
non.
tout, quoi. Ouais, ouais.
Non, mais en fait, je l'ai juste un peu adapté pour que la tessiture soit un petit peu plus aiguë.
D'accord.
À la trompette. Et pour vraiment mettre en avant cet écart avec la contrebasse.
Super, on l'écoute tout de suite, The Peacocks.
sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Bien, superbe ce Peacocks de Jimmy Rawls par Quentin Gomary à la trompette, bien sûr. Yoni Zelnik à la contrebasse, Antoine Paganotti à la batterie. Cette mélodie, elle est sublime. Elle est juste sublime, mais vous la rendez encore plus belle.
Merci, mais...
non, parce qu'il y a une émotion vraiment dans ce morceau. Puis j'imagine la difficulté de le jouer comme ça à la trompette sans instrument harmonique, quoi.
Mais c'était un peu le jeu de jeu de ce trio.
C'est sur le fil, il y a un jeu. En fait, c'est un jeu quelque part. Oui, c'est ça. C'est...
Ouais, de jouer avec la fragilité.
La prise de risque, comme on dit. Mais ça fait partie du jazz, non, la prise de risque.
Je crois.
Ouais. C'est important. Alors, il y a une petite différence. Alors, vous, Quentin, vous jouez quand même beaucoup dans des grandes orchestres, évidemment, dans les pupitres de trompette. Hein. Moi, je vous ai connu avec Pink Machine, vous jouez avec Leila. Vous avez joué dans d'autres grands orchestres aussi.
Je suis dans l'ONG actuellement, par exemple.
Oui, dans l'ONG. Peut-être le sac du tympan, vous avez dû faire
des remplacements.
Oui, des remplacements, oui. Bon, c'est vrai qu'on est, vous êtes un super lecteur, hein, faut le dire, parce que ça, pour jouer dans les orchestres, il faut quand même assurer. Et puis, vous jouez du bugle, donc ça fait deux instruments, deux sonorités différentes aussi.
Oui, et puis le big band, il ne faut pas oublier que pour les soufflants, c'est la première école. C'est ouais. Vraiment, c'est là où on apprend les phrasés, c'est là où on apprend à jouer ensemble. C'est
la discipline.
Ouais, et puis le fait de faire sonner un orchestre ensemble, donc ouais. c'est très, très formateur. Ouais. On est obligé un peu.
Mais en même temps, parallèlement à ça, vous avez aussi envie, du coup, de pour vos propres projets, de faire un jazz en petit comité. Et comment on arrive à concilier les deux comme ça? Du coup, c'est très complémentaire.
Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment... ça me manquait d'avoir un petit peu plus. Après, j'ai eu d'autres formations comme Papanoche, par exemple, qui est encore une formation avec laquelle je joue beaucoup, où je m'exprime beaucoup parce que j'écris beaucoup de musique aussi dans cette formation.
Il y avait le duo avec Marc Benham.
Et c'est vrai que, oui, il y avait un besoin à un moment aussi de mettre un peu plus à nu et puis de aussi prendre ce risque d'avoir un peu la voix lead.
Là, vous êtes au centre, c'est sûr. Mais alors, donc, ce groupe au Trium, vous avez envie de le continuer, que vous avez...
C'est le désir en enregistrant ce deuxième disque. Oui, c'est le désir que ça perdure. En fait, il se trouve que l'an dernier, c'est une année où on a un petit peu moins joué. Et il y a eu cette envie que ça continue. Donc, cet enregistrement, c'est aussi une suite. Et puis, il a été pensé de manière un peu plus directe, un peu moins préparée que le premier disque. Et pour montrer que c'est aussi ça la vie d'un groupe de jazz, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un moment où on prend le temps de construire et puis des moments où on laisse faire la musique se faire. Voilà.
Alors on va écouter un deuxième morceau. Alors j'ai choisi un tempo un petit peu plus relevé. Il s'appelle Roulis Roulant.
Thank you.
roulant. Alors, que veut dire ce titre, cher Quentin ?
Alors, roulis roulant, c'est le nom d'un skateboard en québécois. Voilà.
D'accord. Et vous faites du skateboard ?
Non. Mais c'est vrai que ce morceau, il m'évoquait un roulement.
Oui, bah, c'est vrai.
Et donc, j'ai découvert ce nom-là que je trouvais charmant, quoi. Roulis roulant. Alors, je vais vous épargner l'accent québécois.
Il y avait un petit côté Ornette Coleman, Don Cherry.
Tout à fait.
C'est très ouvert, hein, en même temps, ça marche très bien comme ça. Alors, avant de se quitter, parce que l'heure tourne très vite, il faut qu'on parle, parce qu'il y a une différence avec le premier album, c'est que vous avez un invité, qui est César Poirier, superbe saxophoniste et clarinettiste, hein, qui joue sur 4 titres. Et vous avez envie de le garder ? Le trio va devenir un quartet ou c'est juste un invité ?
On va faire des concerts en quartet. On en a un d'ailleurs à Paluel, au Clos des Fées, en février. Et la sortie de disque, qui n'est pas encore actée totalement, sera avec César, c'est sûr. Puis César, c'est un ami de très longue date et avec qui on a toujours eu plaisir
à... complicité, oui. Voilà. Et alors oui, vous avez peut-être un concert à nous annoncer bientôt là.
Alors, mardi prochain, au Duc des Lombards.
Voilà une bonne nouvelle. Eh bien, très bien. Et ben alors,
mardi 14.
Et ben voilà, pour nos auditeurs. Écoutez, on va terminer l'émission avec un morceau où vous jouez en duo, justement, avec César Poirier. Un morceau qui s'appelle La Vouivre. On terminera là-dessus. Donc, juste avant d'écouter ce morceau, je voudrais vous remercier tous les deux pour votre présence. Hein, et je remercie Armand aussi à la technique, bien sûr. Je vous retrouverai dans 15 jours. Je ferai une émission avec Mathias Lévy et Kevin Révérend. Et samedi prochain, vous retrouverez Jean-Marc Gélin qui fera une émission sur le jazz norvégien. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Aligre FM ainsi que toutes les autres émissions de Jazzland, bien sûr. Et je vous dis au revoir, à très bientôt et on se quitte avec La Vouivre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.